7h18, le billet politique, Frédéric Saïs, les réseaux sociaux et l'incommunicabilité politique.
Oui, il faut écouter notre invité de ce matin, Zeynep Tufekci, qui développe longuement le changement amené par les réseaux sociaux dans les mouvements de révolte, dans les mouvements de colère. Ils permettent, bien sûr, ces réseaux, une information horizontale de citoyen à citoyen, de sorte que toute mainmise sur l'information, que toute tentative de propagande centrale est vouée à l'échec, sauf à couper l'accès global à Internet. Certains dirigeants ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais les plateformes comme Twitter et Facebook ont aussi pour effet de renfermer l'information, plus exactement de la dispatcher en silo quasi hermétique entre eux. C'est humain, nous avons tendance à suivre et à relayer les personnes qui pensent comme nous, nous avons l'habitude de ne plus consulter les comptes de personnes dont les avis nous déplaisent. Et de fil en aiguille, et c'est là où cela devient politique, se constituent des poches d'opinion, des réalités parallèles, des visions du monde éclatées. En France, en ces temps de tension, quiconque a la curiosité de consulter des comptes antagonistes peut voir cette dislocation d'une réalité commune. Pour une partie de ces comptes numériques, par exemple, la cause d'Adama Traoré est celle d'un homme tué directement, voire volontairement, par les gendarmes. Une autre partie de cette France des réseaux sociaux retient, elle, qu'il s'agit d'un homme en fuite après l'interpellation de son frère soupçonné dans une affaire de délinquance. Ces bulles parallèles, on peut s'en désoler, mais c'est un fait, elles existent. Et c'est dans sa dimension politique que cette incommunicabilité est intéressante, car elle façonne ensuite des débats sans racines communes, même s'il faut se méfier bien sûr des effets de loupe sur Twitter et Facebook. Les messages les plus engagés, parfois les plus trompeurs, sont aussi les plus partagés. Et au-delà des utilisateurs très actifs, une plus importante partie de la population n'avait jusqu'ici pas ou peu d'avis et ne s'était même pas forcément intéressée à cette affaire. Mais de manière générale, ces bulles d'opinion, ces prismes antagonistes jouent peu à peu sur la perception du monde et la rendent caricaturale et univoque.
Mais les médias traditionnels conservent-ils une place ?
Oui, bien sûr, ils essayent d'ailleurs de s'adapter à ces forges d'opinion numérique, Guillaume, en publiant régulièrement des articles dits de désintox ou de décodage. Mais dans une société de la méfiance, tendanciellement, la confiance se porte davantage vers ce proche qui partage une analyse qui correspond à ce que l'on pense, plutôt qu'à ce journal qui démontre l'inverse de nos préjugés. Alors bien sûr, toutes les opinions ne se valent pas, et en tant qu'internaute, c'est un travail constant de croiser ses sources pour éviter les contre-vérités et les faits déformés. La propagande n'est pas, n'est plus une prérogative des États, elle est désormais déconcentrée, les émetteurs en sont multiples. À cela, le remède est simple mais ardu. Sur Twitter, par exemple, il faut garder en mémoire que notre cercle de relations ne représente pas l'entièreté de cette plateforme, de même que l'entièreté de Twitter ne représente pas tous les réseaux sociaux, de même que tous les réseaux sociaux ne représentent pas l'opinion publique, entre guillemets, et ainsi de suite. C'est donc une série de cercles concentriques au milieu duquel votre bulle ne pèse pas bien lourd. Autrement dit, si tous ceux que vous suivez en ligne partagent la même opinion, alors de deux choses l'une, ou bien le monde entier est devenu totalement unanime sur tous les sujets, mais c'est peu probable, ou alors vous suivez uniquement des personnes d'accord avec vous.
Et cette tendance naturelle à l'enfermement est-elle nouvelle ?
Non, mais elle est facilitée, amplifiée, et cela a une conséquence politique. La difficulté de produire un discours commun qui soit audible par tous, ou disons par un très grand nombre. L'allocution de Christophe Castaner cette semaine l'illustre mieux qu'aucune autre quand le ministre de l'Intérieur évoque la suspension, je cite, de policiers en cas de soupçon avéré de racisme. Un soupçon avéré, c'est ce qu'on appelle un oxymore, un soupçon avéré, c'est conçu pour ne fâcher personne, au risque finalement de ne contenter personne non plus.